Voilà, cela fait donc plus d'un an que nous sommes à suivre donc la vie, le ministère de Jésus, son enseignement. Et donc en fait, nous faisons un petit peu ce que font les évangiles, qui consacrent une grande partie de leur écrit au moment de la Passion. Et c'est la troisième fois déjà que nous sommes sur les événements de la Passion. Nous avons vu le début de la dernière semaine de Jésus, nous avons vu ensuite, avec son dernier repas avec ses disciples, nous avons vu ensuite le procès, donc c'était il y a 2 mois, au mois de novembre, et maintenant nous allons voir ensemble la crucifixion de Jésus, et nous consacrerons encore le mois prochain, donc une étude sur la question de la résurrection de Jésus. Et donc nous allons nous attarder sur des choses que nous connaissons d'une certaine façon, mais qu'il nous faut reprendre toujours à nouveau. La crucifixion de Jésus, donc, les événements et sa signification, autant que possible. Et je vous invite donc à lire en introduction dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 21. Il dit « Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers celui qui est le berger et le gardien de vos âmes. » Jusqu'ici, ce court témoignage de l'apôtre Pierre à la signification de la mort de Jésus, qui a porté donc nos péchés en son corps sur le bois. La mort de Jésus est certainement la mort la plus connue de l'histoire. La croix sur laquelle il est mort est devenue le symbole même de la foi chrétienne. Pourtant, la croix évoquait une réalité dégradante. Un crucifié était quelqu'un de déshonoré, quelqu'un qui suscitait le rejet. Et il y a eu, au début de l'ère chrétienne, des gens qui ont raillé les chrétiens, qui adoraient ce sage crucifié et qui se plient à ses lois. C'était très déshonorant, un crucifié. Et pourtant, la croix est devenue au centre de la foi chrétienne. Paul lui-même dira, et vous l'avez en face de vous, au-dessus de moi, « Loin de moi de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » La mort de Jésus a été suivie pourtant de sa résurrection, mais il faut noter que le tombeau vide n'a pas effacé la valeur propre de la croix. Et ça montre que Jésus n'est pas venu simplement pour vaincre la mort. Mais quelque chose d'essentiel s'est joué lors de sa mort elle-même. La résurrection sera essentielle, elle manifestera l'aboutissement, le triomphe de cette œuvre, mais quelque chose s'est passé à la croix. Et c'est pourquoi il vaut la peine de suivre aussi les événements. Comment aborder cette dernière étape de la Passion de Jésus, après ses derniers moments avec ses disciples, son arrestation, son procès? On peut bien sûr simplement rappeler les événements. Mais je crois que 2 mots sont essentiels à garder au fond de soi lorsque l'on aborde le récit de la Passion et de la crucifixion en particulier. C'est le fait que Jésus-Christ a traversé tout cela pour nous. Il a traversé tout cela pour nous. On ne peut pas lire ces récits sans cette dimension, sans ce saisissement. C'est Jésus lui-même qui nous convie à ce regard. À la veille de sa passion, ce sont ces mots qu'il a employés. « Ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon sang répandu pour une multitude, pour le pardon des péchés. » Il parlait là de la croix qui allait venir. C'est pour vous, le don de lui-même pour nous. Et comme il a également dit cela dans une un geste que, où chacun était appelé ensuite individuellement à prendre ce pain qu'il offrait en signe du don de lui-même, ça nous rappelle que ce pour vous, général, il peut devenir aussi un pour toi ou pour moi tout à fait particulier. Et Jésus nous invite à considérer ce qu'il a fait, oui, pour la multitude, pour une multitude, mais pour chacun de nous en particulier. Et Paul l'a bien compris, lui qui disait « Christ s'est donné, il s'est livré lui-même pour moi ». C'est avec cette dimension que l'on peut saisir le sens profond de la croix. Et il s'agit pour nous vraiment d'entrer dans ce récit de cette façon-là. On va quand même prendre un petit peu de distance et voir les événements et les récits. D'abord quelques mots sur les récits que nous avons de la crucifixion. Nous avons 4 récits de la crucifixion. Ils ont en commun une trame d'ensemble de l'événement. Mais en même temps, chaque évangéliste souligne tel aspect plus particulier qu'il a frappé ou qu'il veut souligner à propos de la croix de Jésus. Chaque récit a une couleur particulière. Alors, s'il fallait peut-être essayer de préciser cette couleur de chacun, voilà ce que l'on pourrait dire. Matthieu présente Jésus comme le Messie rejeté conformément aux Écritures. Matthieu a souligné dans tout son évangile combien Jésus accomplit tout ce qui était écrit. Il l'accomplit par sa naissance, par son ministère, par son enseignement, par tout ce qu'il est, par tout ce qu'il fait. Jésus accomplit les Écritures. Et c'est aussi de cette façon qu'il est celui qui était promis, le Messie annoncé par Dieu. Il en va de même, nous dit Matthieu, de la Passion. Elle aussi, aussi mystérieusement que cela puisse sembler, elle accomplit les Écritures. Jésus l'exprime lors de son arrestation. « Laisse ton épée, dit-il, et c'est Matthieu qui le relève à Pierre, « Laisse ton épée, dit-il à Pierre, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Et donc Matthieu va présenter la crucifixion de Jésus comme étant aussi très mystérieusement cet accomplissement des Écritures. Cela prend sa place dans le plan de Dieu. Quand il raconte la crucifixion, il fait des allusions à des textes de l'Ancien Testament pour montrer que tout cela réalise ce que Dieu avait voulu. Jusque dans le rejet du Messie, cette réalité inconcevable s'accomplit le plan de Dieu. Ce qui veut dire aussi qu'une nouvelle ère, une nouvelle alliance est possible grâce à Jésus. C'est ce que soulignera Matthieu. Donc le Messie rejeté, oui, mais conformément aux Écritures. C'est ce que Matthieu souligne. Marc, lui, décrit la mort de Jésus comme celle du serviteur souffrant qui endure jusqu'à l'abandon de Dieu. C'est peut-être ça l'accent particulier de Marc. Le serviteur souffrant, c'est une référence à une figure de la prophétie d'Ésaïe qui avait décrit un homme que Dieu lui-même décrive comme « Voici mon serviteur ». Ce serviteur accomplit l'œuvre de Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tous ses actes, dans toute sa manière d'être. Et Jésus, dans son ministère, l'a pleinement accompli. Mais voilà qu'on découvre soudain que ce serviteur qui exprime tellement la volonté de Dieu subit l'opposition des hommes. Et plus encore un rejet total dans la souffrance alors qu'il est innocent. Et l'on dit de ce serviteur, mais ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il se charge. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et Marc nous décrit la mort de Jésus sous ses traits. Juste avant la passion, il rapporte une parole de Jésus qui s'identifie à ce serviteur d'Ésaïe. Marc 10, verset 45, « Je suis venu pour servir et pour donner ma vie en rançon pour une multitude. » Ces mots « servir », le mot « la multitude », cela évoque vraiment les textes d'Ésaïe qui parlaient du serviteur de l'Éternel. Et l'effet sur lequel Marc joue pour montrer cette œuvre du serviteur qui se donne et qui paye un prix fort, c'est d'une certaine façon un effet de contraste. Dans tout son évangile, Marc raconte en quelque sorte la vie de Jésus d'une manière très speed, C'est toujours très rapide, et du coup, ça donne une intensité très forte à tous les actes de Jésus, à toute la vie de Jésus. Dieu est là, Dieu agit au travers de lui. Au moment de la crucifixion, au contraire, ce qui est frappant, c'est de voir que dans tout le récit de Marc, la place est là pour ceux qui font subir à Jésus ce qu'il endure. Jésus ne dit rien dans Marc, il subit simplement, face aux moqueurs, face à tous ceux qui sont en face de lui. Il n'aura qu'une parole, et c'est pour dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là on voit ce contraste entre un Jésus toujours actif et ce serviteur qui subit, qui endure. Ça c'est ce que Marc souligne. Luc, lui, décrit Jésus tout au long de sa crucifixion comme le sauveur, et le sauveur plein de compassion. Jésus souffre, et pourtant, en montant vers la croix, il s'adresse aux femmes qui se lamentent à son sujet, attentif à elles plutôt qu'à lui. Quand on le cloue au bois, il prie pour ceux qui le maltraitent. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il promet aussi le salut à l'un des larrons crucifiés à côté de lui et qui reconnaît ses fautes et voit en Jésus quelqu'un d'autre que lui-même. Et quelqu'un qui va entrer dans son règne. Et les derniers mots que Luc relève de Jésus sont des paroles où il remet avec confiance son esprit entre les mains du Père. La compassion, la confiance jusqu'au bout, jusqu'en ces heures terribles, c'est ce que Luc souligne, le sauveur compatissant. Jean, enfin, décrit Jésus comme l'agneau pascal, libérateur, duquel jaillissent la vie et le salut. Et Jean souligne la correspondance entre la mort de Jésus et la fête de la Pâque. Cette fête de la Pâque renvoyait à l'événement fondateur de la libération du peuple d'Égypte hors de du peuple d'Israël hors de l'esclavage d'Égypte. Et cette nuit de la délivrance, un agneau avait été tué, immolé et mangé par ceux qui allaient être libérés. Son sang avait été mis sur les portes, les linteaux des portes de chaque maison, et c'est ainsi que les Israélites avaient été épargnés de la mort des premiers-nés qui avaient frappé tous les Égyptiens, et c'est ainsi qu'ils étaient partis en cette nuit de la délivrance. C'est ce que l'on rappelait lors de la fête de la Pâque. Dieu est le Dieu du salut, le Dieu qui libère de l'esclavage. Et on mangeait l'agneau pascal en souvenir de ce don qui avait assuré la vie et de cette nuit où Dieu avait délivré son peuple. Si on suit la chronologie de Jean, Jésus meurt au moment où dans le temple on commençait à sacrifier les agneaux de la Pâque. Et après qu'il est mort, on perce son côté, on ne brise aucun de ses os, contrairement à ce qui s'est passé pour ses compagnons. Et là encore, c'était un signe qui renvoyait à Jésus comme l'agneau pascal, libérateur, mais duquel jaillissent la vie et le salut. Vous voyez donc, chacun a une facette un petit peu particulière de la mort de Jésus. Elles sont complémentaires, elles disent plusieurs aspects de la signification de la mort de Jésus. Une fois qu'on a vu ces quatre facettes et des récits, peut-on reconstituer un petit peu plus précisément le déroulement des événements? Peut-on éventuellement aussi les éclairer par ce que l'on sait de l'histoire? On peut distinguer quatre moments plus particuliers dans la crucifixion de Jésus. D'abord la montée vers Golgotha, ensuite les premières heures de la crucifixion, puis les ténèbres et le chemin intérieur de Jésus, et finalement les tout derniers instants. D'abord donc, la montée vers Golgotha. Le premier moment est cette montée vers le lieu du supplice. Pilate, à l'issue du procès qu'il a fait très tôt le matin, a décidé du sort de Jésus. Il sera crucifié. Et l'énoncé de ces condamnations dans le droit romain était très bref dans les procédures. On disait à celui qui était condamné, à la mort tu iras, à la mort tu iras, ou à la croix tu iras. Et le tu iras était une réalité très concrète. En effet, le condamné devait se rendre à pied sur le lieu de son supplice et en portant lui-même sa croix, ce qui allait le supplicier. Avant cela, le condamné à la croix subissait la flagellation. Dans le cas de Jésus, il l'avait déjà subi de manière préventive. Vous savez que c'est ainsi que Pilate avait pensé pouvoir faire échapper Jésus à la condamnation à mort. Il l'avait flagellé. Mais le résultat pour Jésus, c'est qu'il a été flagellé encore plus fort que ses compagnons. Quand on flagellait juste avant la croix, on veillait à ne pas mettre la vie des gens en danger. Tandis qu'avant, quand il n'y avait pas cette échéance, il n'y avait pas les mêmes restrictions. Si Jésus avait été flagellé une seconde fois, certainement qu'il n'y aurait pas survécu. On remet donc à Jésus sa propre tunique. Vous savez qu'on lui avait mis une sorte de mascarade, de vêtement royal. À Rome, il faut savoir que les condamnés qui marchaient vers le lieu du supplice étaient nus devant tout le monde. On n'a pas osé le faire à l'intérieur des murs de Jérusalem. Jésus est donc chargé de sa croix, nous dit le texte. Alors on n'est pas tout à fait sûr de savoir ce que cela représente. À Rome, quand les crucifiés étaient chargés, ils étaient juste chargés, si vous voulez, de la partie horizontale de la croix, hein, ce qu'on appelait le patibulum, la traverse horizontale. C'est déjà quelque chose de lourd, ça pesait une trentaine de kilos. Et on chargeait simplement les gens de la traverse horizontale parce que les poteaux verticaux étaient placés à demeure. Il y avait des exécutions régulières. On ne sait pas ce qu'il en était à Jérusalem, mais il n'est pas certain qu'il y ait eu des poteaux verticaux qui soient là placés à demeure pour toutes les exécutions qui pouvaient avoir lieu. Et c'est pourquoi il est quand même assez probable que Jésus ait été appelé à tirer, à traîner une croix entière, les deux éléments. Hélas, du coup, ça représente vraiment une charge très très lourde, au moins 75 kilos. Et le lieu du supplice était à 400-500 mètres de l'endroit où Jésus se trouvait. Jésus est épuisé, les évangiles nous le décrivent ainsi, et les évangiles nous disent qu'il a fallu réquisitionner un passant, Simon de Cyrène, pour porter sa croix. Alors c'était une pratique romaine assez courante, hein. À n'importe quel moment, l'occupant pouvait réquisitionner quelqu'un pour une tâche quelconque qu'il voulait faire occuper. Certains se sont servis de cet épisode pour nier que Jésus lui-même soit mort. Un agnostique, c'était des gens qui avaient des idées philosophiques un peu liées à la philosophie grecque, qui s'appelait Basilide, a dit qu'en fait, Simon de Cyrène aurait été métamorphosé en recevant les traits de Jésus pour être crucifié à sa place. Ça, c'est dans l'idée que c'est pas possible que quelqu'un qui est le Fils de Dieu, qui est un esprit venu de Dieu, puisse subir la croix. Et donc, voilà ce que disait ce gnostique. Et l'on sait que le Coran affirme lui aussi que c'est non pas Jésus qui a été crucifié, mais une ressemblance de Jésus qui a été crucifié. Parce que un prophète ne peut pas mourir de cette façon sur la croix, ne peut pas subir ce déshonneur. L'Évangile nous dit autre chose. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est ce mystère de l'amour de Dieu présent, de Dieu qui se donne, qui est là, affirmé à la croix. Pour Simon, en tout cas, cette communion avec le Christ sous la croix, hein, il a été littéralement sous la croix, puisqu'il a porté cette croix de Jésus en marchant devant Jésus d'une certaine façon. Pour lui, cette communion sera décisive. Il est probable que Simon de Cyrène est devenu chrétien parce qu'on l'appelle le père d'Alexandre et de Rufus. Donc Alexandre et Rufus, ses fils, ses enfants, sont connus des chrétiens à qui Marc écrit, et ça laisse entendre que certainement Simon de Cyrène est devenu chrétien. Cette montée donc vers Golgotha est un moment douloureux, terrible pour Jésus. Vous savez qu'elle a pris dans la piété une forme très stéréotypée avec ce qu'on appelle les chemins de croix. Chemins de croix avec 14 stations, 14 étapes bien établies. Alors dans les chemins de croix traditionnels, il y a 5 de ces stations qui évoque des événements qui ne sont pas du tout rapportés dans les évangiles. Certains parlent de Sainte Véronique qui aurait essuyé le visage de Jésus. Il y a plusieurs chutes de Jésus qui sont dites. Une rencontre avec la mère de Jésus, tout ça n'est pas dans les évangiles. Et on tend actuellement à essayer d'avoir des chemins de croix, même dans les au niveau catholique, des chemins de croix avec des étapes qui correspondent à des éléments plus bibliques. Jean-Paul II, par exemple, a changé les chemins de croix traditionnels et a supprimé des éléments non bibliques pour mettre uniquement des éléments bibliques. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a place d'une certaine façon pour de tels parcours intérieurs où on fait mémoire de ce que Jésus a vécu. Par contre, bon, il y a place si c'est un lieu de mémoire, si c'est un lieu de méditation, si c'est un lieu de prière. Par contre, on trahit l'esprit biblique si on fait d'un tel chemin ou du fait même de porter une croix soi-même une sorte d'œuvre méritoire. C'est Jésus et Jésus seul qui a payé pour nous donner le pardon. Il est le seul unique de notre salut. Ce qu'il a souffert, il l'a enduré pour nous, pour que justement nous n'ayons pas à l'endurer. Alors ça, il faut bien préserver cette distinction. Maintenant, quand on réfléchit à cette montée vers Golgotha, peut-être deux éléments peuvent nous aider à y réfléchir bibliquement. Premier élément, c'est de rappeler quand même que Jésus, depuis longtemps, s'était mis dans cette perspective d'aller jusque vers la croix. Ce n'est pas juste au dernier moment où il a porté sa croix vers Golgotha. C'est pendant très longtemps dans sa vie que Jésus vraiment avait déjà ses dispositions intérieures. Luc nous rapporte au chapitre 9, au verset 53, et on est là à peu près au milieu de l'évangile, au milieu du ministère de Jésus, que Jésus a pris, à partir de là, la ferme résolution de se rendre vers Jérusalem. Jésus durcit son visage pour monter vers Jérusalem. Il prend la ferme résolution d'aller vers Jérusalem. Et c'est une manière de dire vraiment que Jésus s'est mis vraiment dans les dispositions de ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il attendait. Et pendant de longs mois et tout un temps de son ministère, il était très habité par le fait qu'il savait qu'il montait vers Jérusalem. Ce n'est donc pas juste au dernier moment de la vie de Jésus qu'il a fait ce chemin vers Jérusalem, mais c'est vraiment d'une certaine façon pendant très très longtemps. Et Jean dit la même chose à peu près lorsqu'il parle de l'heure de Jésus. Jésus qui dit « mais mon heure n'est pas encore venue » ou « mon heure doit venir » ou « maintenant l'heure vient ». Jésus sait qu'il a un rendez-vous fixé par Dieu, et maintenant donc il y est. Une deuxième piste biblique pour évoquer cette montée de Jésus vers Golgotha est de faire un lien entre ce récit et le récit du sacrifice d'Isaac par Abraham, son père. Vous savez qu'à un moment donné dans la vie d'Abraham, Dieu met Abraham à l'épreuve et lui demande de sacrifier son fils, son unique, Isaac, le fils de la promesse. Et lui indique une montagne, Morija, où il doit aller. Abraham obéit. Et il y a ce récit qui est donné des siècles avant Jésus-Christ, et où à un moment donné, il nous est dit dans le texte, Abraham prit le bois pour le sacrifice, le chargea sur son fils Isaac, et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble, montant vers cette montagne du sacrifice. On imagine l'intensité de cette montée hallucinante d'un père et de son fils. Mais d'une certaine façon, ce récit préfigure la montée de Jésus vers la croix. En effet, le récit d'Abraham et d'Isaac pose la question de quel est le sacrifice suffisant pour Dieu. Il y avait des sacrifices humains qui étaient offerts à l'époque. Et Dieu met Abraham à l'épreuve, mais il sait qu'il ne va pas accepter justement le sacrifice humain. Et la grande leçon de ce texte du sacrifice d'Abraham, du sacrifice d'Isaac qui est arrêté par Dieu, c'est que Dieu refuse des sacrifices humains. Dieu refuse cette espèce de débauche où il faut en faire toujours plus de manière inhumaine pour se rendre acceptable à la divinité. Dieu refuse cela. Et à la place de cela, il y a la façon dont Dieu pourvoit. Parce qu'à la place d'Isaac, Dieu a pourvu en donnant un agneau. Et la conclusion de cette affaire d'Abraham et d'Isaac était de dire « à la montagne de Dieu, il sera pourvu ». Et d'une certaine façon, face à toute la volonté des hommes d'en donner toujours plus pour plaire à Dieu, il y a la réponse de Dieu qui est dire, mais Dieu pourvoira. Mais la question qui est dit, c'est à quel moment est-ce que Dieu pourvoira vraiment, de manière définitive, à ce qui est nécessaire à lui être agréable, à être accepté par lui. Nous avons la réponse ici. Et c'est pourquoi ce récit d'Abraham est d'une certaine façon une préfiguration. Jésus gravit cette étape aussi. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'il y a cette connivence entre Dieu le Père et Jésus pour monter cette montagne vers la croix. On est proche de l'histoire d'Abraham et d'Isaac, avec quand même des différences. Au contraire d'Isaac, Jésus sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il est là, il l'a choisi, il l'a accepté. Entre le Fils et le Père, c'est une pleine communion, c'est un même esprit en vue du salut de l'humanité. Jésus gravit donc cette étape ultime, mais le Père est là aussi, comme Abraham, aux côtés de son Fils, son unique, son bien-aimé. Et vous voyez, je crois que c'est important de rappeler cela parce que la passion est à voir aussi du côté du Père. Aussi du côté du Père. Dieu tout entier est impliqué dans l'œuvre de notre salut. Jésus s'y est engagé, mais Dieu le Père s'y est engagé aussi. L'Esprit aussi était là, dans une pleine communion d'amour et de volonté au moment où Jésus monte sur la croix. Et tout au long de la passion, il en est de même. Et ça vaut la peine d'y penser, d'y réfléchir. Donc voilà, c'est une piste aussi pour la réflexion sur cette montée de Jésus à la croix. Deuxième étape, les premières heures de la crucifixion. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux du supplice, nous dit Marc, c'était la troisième heure. Marc 15, verset 25. Troisième heure, il faut comprendre la troisième heure du jour, c'est-à-dire 9 heures du matin. Le jour commençait à peu près à 6 heures du matin. Les récits évangéliques sont très sobres. Lorsqu'il nous rapporte la crucifixion, ils le crucifièrent, disent-ils. C'est tout ce qui est dit. Il est vrai qu'à l'époque, on savait ce que ça voulait dire, une crucifixion. La sobriété des récits ne doit pas nous faire oublier que la crucifixion était un supplice horrible. Cicéron dira, c'est le plus cruel et le plus horrible des supplices. Et en effet, les condamnés périssaient dans des contorsions et dans d'indicibles tourments. Ils restaient des heures, parfois un jour ou deux, fixés comme ça au bois. Ils souffraient de crampes, les poumons étaient asphyxiés, les muscles tétanisés, le cerveau mal irrigué. La soif, l'effort qu'il fallait faire pour respirer en s'appuyant sur les pieds encloués, tout cela était quelque chose de terrible. Certainement qu'une des choses les plus terribles était le fait que, pendu par les bras, c'est ce qui empêchait d'inspirer, donc du coup, pour pouvoir inspirer, il fallait trouver appui sur les pieds, et il y avait la douleur permanente, quelle que soit la position. Lorsque Jésus est amené donc sur le lieu où il va être crucifié, on lui enlève sa tunique, on imagine la douleur déjà de ce geste. Est-ce qu'on lui met un linge à la taille, comme le représentent les peintres, ou est-ce que il a été cloué nu, on ne le sait pas. Peut-être y a-t-il eu un peu de respect de la pudeur juive, mais ce n'est pas certain. Jésus est cloué au bois. Ses bourreaux connaissent aussi bien l'anatomie. Les clous n'ont pas été enfoncés dans les paumes des mains, comme on le dit souvent, mais juste dans la région des petits os ici, du carpe, juste sous le main, où il y a plus 8 petits os. Et donc c'est là que l'on peut se frayer un chemin. Mais d'une manière générale, lorsque un clou est enfoncé là, des études ont été faites, cela provoque une compression du nerf médian, avec des douleurs fulgurantes qui s'irradient jusqu'à la nuque. Tout cela est vraiment des choses terribles, des souffrances qui sont là. Et voilà donc les croix qui sont dressées. Jésus est au centre. Il est possible que sa croix ait été un peu plus élevée que celle des deux larrons. Il existait deux sortes de croix, une qu'on appelait la croix sublimis, la croix haute, et l'autre la croix humilis, la croix plus petite. Et Pilate a tenu à mettre en scène Jésus comme roi des Juifs. C'était sa manière d'agacer les chefs des Juifs en disant « voilà votre roi ». Mais c'était aussi une manière de prévenir et de dire, s'il y en a un qui essaye d'être le roi, voilà le sort qui sera le sien. Donc Jésus, Pilate a vraiment voulu manifester Jésus comme roi des Juifs, mais en même temps le rabaisser de cette façon-là. Et il est possible que sa croix ait été plus grande que les autres. Jésus ne prononcera que quelques paroles sur la croix. Les évangiles permettent d'en identifier 7, mais donc les 3 premières paroles sont données pendant les 3 premières heures, si vous voulez, de la crucifixion. Et la première de ces paroles est une parole en faveur de ces bourreaux, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est Luc qui nous la rapporte. Cette parole révèle l'état d'esprit de Jésus. Même dans la fulgurance de ses souffrances, il aime. Il continue d'aimer. Et il s'adresse à son Père aussi en le sachant dans cette même ligne d'amour, dans cette même volonté de pardon. La croix est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, pour tous, envers et contre tous, si l'on revient à lui. Et même ceux qui lui ont fait ce mal, Jésus souhaite pour eux le pardon. Il garde cette ligne de l'amour. À ces paroles de Jésus s'oppose brutalement les moqueries dont il est l'objet. Les chefs religieux, les soldats romains, une partie de la foule s'en donnent à cœur joie. On reprend certaines de ses paroles qu'il avait prononcées lors de son ministère et on les tourne en dérision. On ne respecte même pas le bien que Jésus avait fait. Toi qui as sauvé du monde, toi qui as fait tellement de bien, sauve-toi toi-même maintenant. On utilise cela pour se moquer de lui. Ce qui est vraiment frappant et triste quand on y pense, on ne s'est pas moqué des brigands, mais on s'est moqué de Jésus le juste. Jésus, en tout cas, ne répond pas à ces moqueries. Jésus n'utilise pas sa puissance pour prouver ce dont il est capable et descendre de la croix. Il privilégie notre salut, il privilégie l'amour, il reste sur la croix. L'un des larrons, dans sa douleur, mêle sa voix à ceux des moqueurs. Mais l'autre, apparemment, discerne en Jésus quelque chose de différent. On traite Jésus par dérision de roi et de messie, de roi, de quelqu'un qui a sauvé les autres. Mais ce qu'on dit de Jésus par dérision, ce brigand s'en saisit positivement par la foi. Mais il est peut-être, oui, il est peut-être ce roi, ce messie dont on se moque. Il a vu certainement chez Jésus, dans son attitude, il a peut-être entendu sa prière, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a vu autre chose. Et du coup, il a une démarche de foi envers Jésus. Il demande à Jésus, crucifié comme lui, de se souvenir de lui quand il sera dans son règne. Et la réponse de Jésus est limpide. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le premier sauvé par Jésus-Christ crucifié l'a été à l'évidence par grâce et par grâce seule. Il ne pouvait plus rien faire pour s'améliorer, pour se racheter. Il pouvait juste demander grâce. Et il l'a fait en ayant confiance en Jésus. Et c'est ainsi qu'il a reçu la promesse d'être accueilli. Un mot aussi. Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cela rappelle que dès le moment de la mort, ceux qui appartiennent au Seigneur sont dans la présence de Dieu. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Mais voilà qu'un silence se fait, la foule s'ouvre, quelques personnes s'avancent. Il y a la Marie, la mère de Jésus qui s'avance, soutenue par Jean, son fidèle disciple. Elle aussi a gravi la colline, elle s'arrête douloureuse au pied de la croix. Pas un mot n'est échangé, mais il y a la douleur qui transperce comme une épée. L'amour, l'impuissante souffrance. Et on a là toute l'épaisseur humaine de la croix, dans cette présence de Marie en face de Jésus, son fils. C'est Jésus qui prendra la parole pour briser le silence. Femme, dit-il à Jean, dit-il à Marie, voici ton fils, en montrant Jean. et à Jean, le disciple que Jésus aimait, voici ta mère. Jésus ne peut certainement pas en dire beaucoup plus, la douleur est trop grande, mais Jésus indique le chemin qui seul permet de surmonter les épreuves les plus insurmontables. Aimer, accueillir, se donner fidèlement. 3 heures donc. 3 heures ont passé maintenant, et c'est une nouvelle étape, il est presque midi. La respiration devient une vraie épreuve pour les crucifiés, ces corps tétanisés progressivement. Et voilà que soudain, en plein midi, le soleil cède la place aux ténèbres, à une inquiétante obscurité de 3 heures. Hélas, les évangiles sont, les synoptiques sont d'accord pour le dire la même chose. Et là, bien sûr, on imagine dans ces ténèbres, tout d'un coup, là, plus rien ne se passe. Plus de moqueries, plus de mouvements, plus de jeux de dés par les soldats. Juste l'angoisse étouffante qui saisit, à cause de l'obscurité, qui saisit la colline. Les témoignages sont unanimes à propos de ces ténèbres du Vendredi Saint. Ils parlent aussi d'un tremblement de terre, 3 heures plus tard, au moment de la mort de Jésus. Que penser de ces phénomènes extraordinaires? Les premiers chrétiens n'ont pas douté qu'ils aient vraiment eu lieu et que vraiment il y ait eu des ténèbres, qu'il y ait vraiment eu un tremblement de terre. Les premiers adversaires de la foi chrétienne non plus, puisqu'ils n'ont jamais attaqué ce point-là. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il s'agit d'un langage symbolique, d'un langage emprunté à l'Ancien Testament pour dire que finalement, ce jour, c'est le grand jour du Seigneur, le grand jour du châtiment. Les prophètes avaient annoncé le jour de l'Éternel, jour du châtiment, jour d'obscurité, de sombres nuages, jour de nuées et de ténèbres. Et certains disent que finalement, probablement, les évangélistes empruntent le langage de l'Ancien Testament pour dire la signification de ce qui se passe, mais que ça n'oblige pas de penser qu'il y a eu vraiment des ténèbres ni de tremblements de terre. C'est simplement une manière de parler, une manière de dire la signification de l'événement. Cette lecture symbolique n'est pas totalement impossible, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a plusieurs témoignages anciens qui parlent d'un obscurcissement du soleil à Pâques en cette période. Un auteur du IIe siècle cite le témoignage de Talus, qui était un habitant de Samarie, à ce propos. Et il y a un autre texte d'un historien du IIe siècle aussi, donc tout près, hein, qui était un historien qui s'appelait Phlégon de Trales et qui dit « En la 4e année de la 202e Olympiade, il y a eu une éclipse du soleil la plus grande qu'on eût jamais vue, et la nuit se fit à la 6e heure du jour, au point que les étoiles furent visibles dans le ciel. Et un grand tremblement de terre ressenti en Bithynie causa de nombreux bouleversements à Nicée. » La 4e année de la 202e Olympiade correspond justement à la période entre l'été 32 et l'été 33. Ça correspond à la période à laquelle Jésus est mort. Et d'autres témoignages anciens vont dans le même sens. Alors comment expliquer ces ténèbres sur la terre? Une éclipse solaire n'est pas possible parce que la Pâque avait lieu lors de la pleine lune. Et c'est lors de la nouvelle lune que les éclipses solaires sont possibles. Certains ont pensé au passage d'une grosse météorite qui aurait pu vraiment à ce moment-là faire une ombre comme ça s'est passé à d'autres moments répertoriés dans l'histoire. Ça a pu peut-être aussi se combiner avec le soulèvement d'un vent de sable épais, le sirocco noir. En tout cas, je crois qu'il ne faut pas rejeter l'idée de phénomènes particuliers à ce moment-là. Et s'ils se sont succédés les ténèbres et puis un tremblement de terre, on comprend que les gens après se soient retournés en se frappant la poitrine. Et je crois que c'est important de nous dire que l'univers entier, qu'il y a eu des signes aussi cosmiques de la mort de Jésus, c'est une manière certainement pour le Dieu créateur de montrer qu'il y avait là un événement décisif qui se jouait, un événement hors du commun, un événement qui déterminait toute la création, toute la nouvelle création aussi. Et je crois que ça a vraiment sa place qu'il y ait donc des événements de ce type-là, des manifestations de ce type-là. Cette période des ténèbres, de 12 heures à 15 heures, est marqué par le silence. Et c'est très frappant, rien ne se dit pendant cette période-là. Et certainement, pour Jésus, c'est un temps où la souffrance envahit tout. Et surtout, les ténèbres du dehors rejoignent les ténèbres du dedans. Et Jésus, ici, alors qu'il fait nuit dehors, est aussi entraîné dans une nuit intérieure, dans un cheminement solitaire, loin des regards, dans des abîmes de souffrance, de silence et d'obscurité. Qu'est-ce qui révèle le cheminement de Jésus, ce qu'il vit? C'est la parole qu'il prononce à la fin de ces 3 heures. Et il y a là soudain ce cri que Marc met en lumière. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus prononce ce cri peu avant de mourir. Et ce cri dit vraiment ce qu'il éprouve au cœur des ténèbres. Il y a les ténèbres au dehors, il y a les ténèbres au-dedans. Au-delà de la souffrance physique, et en plus de cette souffrance physique horrible, il y a pour Jésus l'abandon du Père. L'abandon du Père. Jésus emploie les mots d'un psaume, le psaume 22. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et cette manière de s'adresser à son Père tranche avec sa manière habituelle. De manière générale, Jésus, quand il prie, dit « Père, mon Père ». Ici, c'est « mon Dieu ». Il se retrouve comme n'importe quel humain, n'importe quel croyant, avec l'exigence de la foi au cœur de ce qu'il vit. Jésus dit bien « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un mot impensable. C'est une réalité inimaginable pour Jésus, qui avait été toute sa vie. Toute sa vie avait été une relation unique, constante avec le Père. Une relation lumineuse avec le Père. Et tout d'un coup, Jésus est privé complètement de cela. C'est tellement fort, tellement insoutenable que Jésus semble submergé. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Il sait pourtant pour qu'il a accepté d'être là. Mais l'intensité de ce qu'il éprouve le laisse dans un état presque d'incompréhension totale. C'est tellement inconnu, tellement immense ce qu'il doit comprendre, ce qu'il doit vivre. Jésus expérimente ce qui est pour lui l'indicible, l'impensable réalité. Que dire de cet abandon ? On peut tenter 2-3 choses. L'abandon est réel, il faut le dire. Jésus ne s'est pas simplement senti seul, il a été seul, il a été abandonné par le Père. L'abandon est aussi déstabilisant. Il vient heurter tout ce que Jésus a vécu jusque-là. Il contredit toutes les promesses de Dieu de ne jamais abandonner ses fidèles. L'abandon est rejet, il est châtiment. Jésus n'est pas ici simplement ce qu'on pourrait appeler l'oublié de Dieu, il est le rejeté par Dieu. Et c'est ici le caractère unique de la mort de Jésus. Jésus, en mourant, se charge de notre condamnation. Jésus endosse à notre place ce que nous aurions mérité du fait de nos fautes. Et Jésus manifeste là la pointe extrême de la solidarité. Pour être le sauveur du monde, il accepte de porter le péché du monde. Que Dieu ait voulu faire cela veut dire qu'il ne banalise pas le mal. On n'offre pas un pardon à bon marché. Le salaire que mérite le péché, c'est la mort physique, la mort spirituelle, la séparation de Dieu. Et c'est justice que de devoir payer ce salaire de nos péchés. Et à la croix, on ne passe pas simplement là-dessus, mais Jésus endosse sur lui-même ce châtiment à notre place pour nous en libérer. Dieu unit ainsi son amour et sa justice pour nous offrir le salut. Un salut gratuit pour nous, certes, mais pas superficiel, car le Seigneur a endossé lui-même tout ce que nous aurions dû endosser. Ce que Jésus éprouve ici, c'est la rupture de relation avec le Père, dont il ne ressent plus rien. Le Père est là. Il reste uni à son Fils. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, nous dit l'apôtre Paul. Le Père sait qu'il n'abandonnera pas son bien-aimé au séjour des morts, mais en ces heures uniques, il est comme en retrait, abandonnant Jésus à ce qu'il a accepté d'endurer, et sachant aussi ce qu'il endure. L'Esprit Saint aussi est là, comme en retrait, et Jésus en est privé. Privé d'une certaine façon de ce que lui apportait toujours cette présence de l'Esprit de vie. Et en lui, en Jésus lui-même, Dieu le Fils se tient silencieux. Donc Dieu est là, mais c'est le silence. Et Jésus, dans sa personne humaine, avec sa conscience humaine, subit vraiment cet abandon, cet écart du Père, cet inimaginable. Comment Jésus achève-t-il son parcours douloureux ? Il faut souligner, c'est que Jésus, malgré cet abandon, malgré ce silence en lui-même, ce silence total, Jésus garde la foi jusqu'au bout. Le psaume qu'il cite en disant « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est un psaume qui dit la douleur de se sentir abandonné, mais qui se termine par une parole de délivrance et de confiance. Et Jésus connaissait les psaumes, Jésus les priait régulièrement, et qu'il emprunte ces paroles pour dire ce qu'il ressent, veut dire aussi qu'il s'accrochait également à ce psaume pour continuer à garder confiance en son Père, même alors qu'il ne ressentait plus rien, plus que la distance et l'abandon. Et à cet égard, Jésus a été le fidèle jusqu'au bout de la nuit. Et quand il ne ressentait plus rien, il s'est accroché à la parole de Dieu et à ce psaume qu'il a fait sien pour dire sa douleur, mais aussi avec la perspective d'espérance qui est rattachée à la fin du psaume. Peu avant sa mort, Jésus a une autre parole. J'ai soif. Besoin physique, certainement. Mais parole d'un psaume aussi, et c'est l'expression de quelqu'un qui est coupé de toutes les ressources de sa vie. Jésus, lui, a soif absolument de toute son âme. Il a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et cette soif, elle ne s'étanche pas. On lui tend une éponge imbibée de vinaigre au bout d'une branche d'hysope qu'il s'approche de ses lèvres, mais c'est pas de cela dont il a besoin. Il prend le vinaigre malgré tout. Et puis il rassemble ses dernières forces pour dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Parole de foi, parole d'espérance, d'abandon, d'amour. Malgré la douleur, malgré la solitude, Jésus se remet entre les mains du Père, se confie au Père. Il est allé jusqu'au bout de la fidélité. Et il peut terminé en criant « Tout est accompli, tout est accompli ». Non pas comme certains ont voulu dire « Tout est fini » dans le sens de dire « Il n'y a plus d'espoir », mais « Tout est accompli » dans le sens où on est arrivé au bout de ce qu'il fallait faire. Et poussant un grand cri, Jésus expire, mais en sachant que l'œuvre du salut, elle est accomplie entièrement. Quatrième étape, après la mort de Jésus. Au moment où Jésus meurt, Caïphe, le grand prêtre, est dans le temple, juste à ce moment-là. Et à cette neuvième heure, à 3 heures de l'après-midi, Caïphe, dans le temple, s'apprête à immoler le premier des animaux de la Pâque. Geste inconvenant, quand on sait à quelle mascarade, à quelle trahison, à quel mensonge il s'est prêté quelques heures avant pour condamner Jésus. Geste dépassé aussi désormais, car on immole l'agneau pascal, mais Jésus a pleinement accompli ce que signifiait cet agneau de la Pâque. C'est lui notre délivrance, c'est lui notre salut, c'est lui notre libération de l'esclavage du péché et de sa condamnation. J'en souligne le lien entre les deux dates. Et lorsque quelques heures plus tard, il faut une ou deux heures plus tard, il faut précipiter la fin du supplice de ceux qui restent vivants à cause du sabbat qui arrive, les soldats brisent les jambes des deux larrons encore vivants. Ils mourront ainsi plus vite d'asphyxie, uniquement portés par leurs bras. Jésus est déjà mort. Il n'est pas mutilé. Et j'en rappelle alors ce qui était prescrit pour l'agneau pascal. Aucun de ses os ne sera brisé. Il voilà un accomplissement supplémentaire de l'Écriture. Un soldat pourtant perce le côté de Jésus avec sa lance. C'est le coup de grâce réglementaire avant la restitution du corps à la famille. Et Jean, qui est témoin de la scène, voit qu'il en sort d'abord un liquide clair de l'eau et du sang. Probablement du liquide pleural, la lance a traversé un poumon puis atteint le cœur, le sang ensuite. Jean est bouleversé parce que cette scène va s'imprimer en son esprit comme un signe fort. Celui qu'ils ont percé, cela lui rappelle une prophétie de Zacharie qui annonçait vraiment qu'un jour tous regarderaient, se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Et de celui qu'ils ont percé jaillisse l'eau qui évoque la vie donnée et le sang qui évoque le pardon des péchés. Autrement dit, le crucifié sera source de vie et de pardon. Mais pour cela, il faudra la résurrection. Malgré cela, Jean a déjà à cet endroit-là une phrase importante. Il dit « Celui qui a vu ces choses et en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. » L'annonce de la vie nouvelle du pardon jaillit déjà de la croix. Et Jean nous invite à le croire, à saisir personnellement l'amour et le pardon qui nous sont ainsi offerts. Moi, j'aimerais juste nous inviter chacun à nous assurer d'avoir répondu à cet amour en ouvrant notre vie au pardon qui nous est offert par Jésus, à la grâce, à toute la réhabilitation devant Dieu qui nous sont données par la croix. Et veillons aussi à faire de chaque jour, de chacune de nos attitudes, une réponse à cet amour qui nous a été manifesté en Jésus.